RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite et de l'Indonésie discutent de diverses questions bilatérales. L'Indonésie et l'Indie vont renforcer la coopération de défense. Tanjung Pinang augmente l'économie populaire à travers le tourisme. Selon la ministre Susi, 1900 délégués assisteront à la conférence sur l'océan 2018. La délégation indonésienne dirige l'Assemblée générale de la jeunesse islamique mondiale en Turquie. Chermi nous présente maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, et le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, Adel bin Ahmed Al Jubeir, ont organisé une réunion bilatérale et la réunion de la commission mixte au bureau du ministère des Affaires étrangères de Jakarta mardi 23 octobre 2018. Lors de la réunion prévue depuis un an, on a discuté diverses questions liées à l'amélioration des relations entre les deux pays, comprenant la socialisation des valeurs de paix et la tolérance. Cela a été dit par la ministre Retno Marsudi lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères Adel bin Ahmed Al Jubeir au bâtiment Pancasila Jakarta mardi.
Saya melakukan pertemuan komisi bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel.
J'ai organisé une réunion de la commission conjointe avec le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite Adel Al Jubeir. Cette réunion a été programmée il y a environ un an suite à la visite du roi Salman en Indonésie en 2017. Au cours de la réunion, nous avons discuté de plusieurs choses. D'abord, comme deux grands pays musulmans, l'Indonésie et l'Arabie Saoudite veulent continuer à coopérer pour diffuser la paix, la tolérance et la résolution pacifique des conflits. Selon la ministre Retno Marsudi, la paix au Moyen-Orient ne sera pas créée sans la paix et l'indépendance dans l'État palestinien qui coexistera avec l'Israël par la solution des deux États. Lors de la rencontre bilatérale, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté du radicalisme, du terrorisme et l'augmentation de la valeur du commerce et de l'investissement entre les deux pays. Ils ont également discuté des questions qui ne peuvent pas encore être réalisées, entre autres sur la coopération entre les sociétés pétrolières Aramco et Pertamina, la santé et l'envoi de professionnels dans le domaine de la santé et la protection plus de 600 000 citoyens indonésiens enregistrés qui travaillent en Arabie Saoudite. Le ministre indonésien de la Défense, M. Riemi Satriakudu, a déclaré mardi que l'Indonésie et l'Inde renforceraient la coopération de défense. Cette coopération entre les deux pays a un cadre juridique sous la forme d'un accord de coopération de défense signé le 11 janvier 2011 à Jakarta. Cela a été dit par le ministre Riamiza Triakudu après une réunion avec le ministre indien de la Défense, Nirmala Sitharaman, au ministère de la Défense mardi à Jakarta. L'industrie de la défense est devenue l'un des sujets principaux de la réunion.
Kita tadi bicara masalah satu, bagaimana cara mengatasi teroris. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga,
nous avons parlé des questions. Un, comment faire face au terrorisme. Deux, les catastrophes naturelles. Trois, la question maritime. Quatre, la question de l'industrie de la défense. Nous allons travailler ensemble sur les questions relatives à l'industrie de la défense, parce que la capacité de l'Inde dans l'industrie de la défense est assez bonne. Le ministre indonésien de la Défense, M. Riamiza Triakudu, a également déclaré que dans le cadre de la coopération stratégique de l'industrie de la défense, l'Indonésie appréciait vraiment l'initiation du mémorandum d'accord envoyé par des entreprises de l'Inde, Bharat Electronic, à PT Land Indonesia. L'Inde souhaite que le protocole d'accord puisse être signé à l'événement Indo-Défense qui aura lieu en novembre 2018 à Jakarta. En principe, le ministère de la Défense continuera à soutenir les efforts visant à renforcer la coopération de défense entre les deux pays. La ville de Tanjung Pinang a préparé continuellement des installations et des infrastructures pour attirer les touristes nationaux et étrangers. C'est fait pour que l'objectif du gouvernement de la ville de Tanjung Pinang d'accroître l'économie de la population par le secteur du tourisme peuvent être réalisés. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire régional de Tanjung Pinang, Riono, en marge de la course internationale de bateau Dragon 2018 dans les rivières Charang. Tanjung Pinang récemment, Riono a ajouté que Tanjung Pinang serait concentré sur le tourisme religieux.
Memang kita terus berupaya bagaimana meningkatkan ekonomi melalui salah satunya jalur.
Nous avons déployé de nombreux efforts pour accroître l'économie par le secteur du tourisme, en particulier l'île de Riau est le troisième point d'entrée du tourisme. Nous avons de nombreux événements comme le bateau dragon et d'autres activités, notamment le tourisme religieux. Parce que nous nous sommes concentrés sur Tanjung Pinang comme destination de tourisme religieux. J'espère qu'avec cet événement de bateau dragon, nous pourrons augmenter notre économie. Nous avons beaucoup d'événements en octobre, car ce mois est aussi l'anniversaire de Tanjung Pinang. Le 27 octobre, inshallah, nous aurons un défilé culturel. Riono a ajouté que le gouvernement central soutenait pleinement les activités à Tanjung Pinang. La municipalité de Tanjung Pinang développe également plusieurs types culinaires typiques de Tanjung Pinang pour faire Tanjung Pinang comme ville destinataire touristique culinaire en Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères et de la Paix, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré « La conférence de notre océan tenue à Bali du 29 au 30 octobre sera assistée par 1900 délégations. Il y a 6 chefs d'État ou présidents, un vice-président et 36 ministres qui ont confirmé. » C'est ce qu'a déclaré Madame Susi Pujiastuti après avoir assisté lundi à une réunion de cabinet limité discutant la préparation de notre conférence sur l'océan au Palais Bogor. En outre, selon elle, OCC sera assisté par 200 sociétés civiles et aura du succès car l'Indonésie possède une expérience dans l'organisation de la Banque mondiale et du FMI à Bali. Susi a déclaré également que la 5e OCC donnerait la priorité à plusieurs questions, notamment les aires de conservation marine, l'engagement de prévenir de pollution marine, des déchets plastiques et la pêche. Et la pêche durable jusqu'au changement climatique. La ministre Puji espère que la mise en œuvre de OCC 2018 montrera le leadership de l'Indonésie dans le domaine des affaires maritimes internationales. La délégation indonésienne a été désignée pour présider l'Assemblée générale de la Réunion de la jeunesse de l'Organisation de la coopération islamique tenue à Istanbul en Turquie du 21 au 25 octobre 2018. L'agent de presse Antara a déclaré à Jakarta mardi que la délégation indonésienne a dirigé la 3e Assemblée générale de la conférence islamique du Forum de la jeunesse pour le dialogue et la société, qui a pour thème la solidarité pour l'autonomisation des jeunes. La réunion a discuté des rapports de politique pour une période, coordonné, évalué et compilé des activités de la jeunesse dans les pays de l'OKI, telles que la défense des intérêts des jeunes, le soutien au développement durable, le maintien de la paix dans le monde, l'éducation, l'entrepreneuriat, le renforcement des valeurs morales des jeunes et le dialogue interculturel. Le président des relations diplomatiques de la jeunesse de l'OSCI, l'Indonésie, Benny Pramula, qui est également le président de la jeunesse afro-asiatique, a également déclaré que 57 pays membres de l'OKI assistaient à la réunion de cette année. Lors de la réunion, la délégation indonésienne avait appelé et invité les jeunes de la coopération islamique à intensifier leurs efforts pour maintenir la solidarité, la coopération et l'unité de l'OKI face aux défis mondiaux. L'Indonésie encouragera également la formation de groupes de travail qui ont le devoir d'être le médiateur en cas de conflit entre les pays de l'OKI. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le deuxième nouvel accord de la Corée réalise la paix ». Le 25 octobre sera un nouveau chapitre de la réconciliation entre les deux pays à la péninsule coréenne qui ont été hostiles depuis des décennies. La réconciliation entre les deux pays qui sont séparés par la guerre sera réalisée après les pourparlers de la Corée du Nord et de la Corée du Sud il y a 2 jours. Les discussions qui incluaient également le commandement des Nations Unies auraient abouti à un accord sur un point important. Les pourparlers qui comprennent aussi le commandement des Nations Unies ont convenu une chose importante. Séoul et Pyongyang sont d'accord pour attirer le placement d'armes et de postes de garde à Panmunjom. Panmunjom est une zone étant désignée comme la zone de sécurité commune. L'accord convenu lors de la réunion de huis clos était une tentative des deux pays de réduire les tensions depuis la division des deux pays en Corée du Sud en raison de la guerre de Corée de 1950 jusqu'à 1953. Cette étape encourageante est la suite du sommet qui a été tenu en avril. Auparavant, l'armée des deux pays, depuis le début du mois, avait également commencé à nettoyer les mines qui sont largement répandues dans la zone frontalière. La nouvelle étape du processus de paix a été officiellement annoncée par le ministère de la Défense sud-coréen. L'explication officielle a également indiqué que 2 jours après le retrait des troupes au poste de Panmunjom, la Corée du Nord, la Corée du Sud et le commandement de l'ONU vérifieront. À partir de l'accord entre les deux gouvernements et des mesures concrètes étant prises, la communauté internationale est de plus en plus optimiste. Les efforts de paix, les deux Corées continuent à progresser. Le peuple des deux Corées, qui sont véritablement frères, pourront plus librement se rendre visite. Panmunjom, comme la ville frontalière, ne sera plus une zone de tension. Les mesures de paix susceptibles d'éliminer ou au moins de réduire progressivement Les sanctions économiques imposées à la Corée du Nord devraient favoriser le développement économique et accroître la prospérité de la population nord-coréenne. Pendant combien de temps cet espoir sera-t-il réalisé? Nous attendons toujours les étapes du processus de paix. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le pont George Washington est inauguré le 24 octobre 1931. Le pont George Washington est un pont suspendu payant qui traverse l'Hudson River entre la ville de New York et celle de Fort Lee. Il relie le quartier de Washington Heights dans le nord de l'arrondissement de Manhattan à la ville de Fort Lee, dans l'état de New Jersey. Le pont George Washington est considéré comme l'un des ponts les plus utilisés par les automobilistes au monde. En 2013, plus de 100 millions de véhicules ont emprunté le pont, ce qui rapporte à environ 300 000 le nombre moyen d'usagers par jour. Le pont George Washington est en outre le quatrième plus grand pont suspendu des États-Unis. Il est géré par le Port Authority of New York and New Jersey. La construction du pont a débuté en 1927 à partir d'un projet de la Port of New York Authority. L'ingénieur Otmar Amann dirige la construction. Le pont est inauguré le 24 octobre 1931. L'autre information est sur l'Organisation des Nations Unies est créée le 24 octobre 1945. L'Organisation des Nations Unies, ONU, est une organisation internationale regroupant 193 États. En remplaçant de la Société des Nations, la Charte des Nations Unies est adoptée le 26 juin 1945 par 51 États. Elle entre officiellement en vigueur le 24 octobre 1945. Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité internationale. Pour les accomplir, elle promeut la protection des droits de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la garantie du droit international. La Charte définit 6 organes principaux, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le secrétariat. Le système des Nations Unies inclut plus largement des programmes, fonds, institutions spécialisées et apparentées. Les 6 langues officielles sont l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le mandarin et le russe. Seuls l'anglais et le français sont les langues de travail. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée nationale des médecins. La Journée nationale des médecins est identique à l'anniversaire de l'Association des médecins indonésiens. Au début, cette organisation s'appelait Vereniging van Indische Artsen. À partir de l'an 1911, l'organisation qui a commencé d'une association de médecins était présidée par Dr. J. A. Kayadu. De plus, le nom de cette association en 1926 était changé pour Vereniging van Indonesische Geneeskundige, ou VIG. Pendant l'occupation japonaise en 1943, VIG est dissoute et devient Jawa Izi Hokokai. Le 22 et 25 septembre 1950 a eu lieu le premier congrès de l'Association des médecins indonésiens à Jakarta. Environ 180 médecins, 62 d'entre eux viennent de l'extérieur de Jakarta, ont assisté à l'événement. Au congrès, Dr. Sarwono Prawiroharjo a été élu la première présidente générale de l'Association médicale indonésienne. Puis, le 24 octobre 1950, Dr. R. Soeharto en tant que comité du conseil exécutif central de l'association médicale indonésienne, en son nom propre et au nom d'autres administrateurs tels que Dr. Sarwono Prawiro Harjo, Dr. R. Pringadi, Dr. Po Eng Liang, Dr. Tan Eng Ti et Dr. Hadrianus Sinaga, ont rencontré le notaire R. Kadiman afin d'obtenir une base légale pour la création d'une association médicale portant le nom de l'Association des médecins indonésiens. Ensuite, chaque année, le 24 octobre est célébré comme l'anniversaire de l'Association des médecins indonésiens. D'autres l'appellent la Journée nationale des médecins, basée sur l'inauguration de l'Association des médecins indonésiens le 24 octobre. Secrétaire, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel. Pesona Indonesia.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc le magazine culturel ayant pour le titre « Les catastrophes apportent des bénédictions ».
Alhamdulillah, setelah kejadian sekarang.
Alhamdulillah, après les catastrophes, les habitants de Galunggung peuvent sentir le résultat de leur agriculture à partir de leurs propres ressources naturelles. Donc, c'est mieux, plus bénéfique et plus bénéfique. Et le niveau économique de la société est également meilleur. C'était la reconnaissance de Saifullah, chef du village de Sukajadi, le district de Cisayong, la résidence de Tasikmalaya, la province de Java Occidental. Le village de Sukajadi est l'un des villages qui est directement touché par l'éruption du Mont Galunggung.
Thank you.
L'éruption de Mangalungung, qui a une hauteur de 2167 mètres ou 7111 pieds au-dessous du niveau de la mer, a été très phénoménal en 1982. Dans l'histoire, le Mangalungung est entré en éruption en 1982. La dernière éruption est de type vertical volcanique, comme une explosion d'un champignon de la bombe atomique atteignant 20 km au ciel. Elle est suivie par une explosion pyroclastique ou une poussière fine qui envahit Bandung, Tasikmalaya, Garut, Cianjur et une autre ville dans un rayon de 100 km. L'impact négatif de l'éruption a été ressenti par la plupart des gens autour du Mangalungung. Ils ont souffert de l'éruption pendant plus d'un an.
Tasik Utara lah khususnya itu sangat berdampak negatif.
Le nord de Tasikmalaya en particulier a un impact négatif. Même plusieurs dommages et destructions se sont produits pendant un an. Pendant un an, il n'y a aucune activité dans certaines régions de district telles que Cisayong, Sukaratu, Padakembang, Lewisari, Singaparna. Sur 5 de 6 districts, ces terres agricoles ont été détruites pendant un an. Atang Supriyatna, agriculteur du village de Sukajadi, le district de Cisayong, la résidence de Tasikmalaya, a parlé de l'atmosphère tangdu au moment de l'éruption.
Pertama kelihatan mah malam Senin, jam 11 malam. Minggu malam Senin gitu kan.
Un peu plus tôt, dimanche soir, si je ne me trompe pas, dimanche soir à 23h, il y a fait de la fumée. À ce moment-là, des élections générales seraient organisées. J'étais au poste de commandement, j'étais sur ses gardes, je ne savais pas que la montagne allait exploser. Il y avait d'abord de la bruine, donc quand j'étais à l'extérieur, waouh, pleut. En entrant dans le poste, j'ai baissé les yeux et ce n'était pas mouillé, ce n'était pas de l'eau, ce sont les poussières. Le matin au poste, je suis arrivé au village. Vous de l'ouest, beaucoup de gens là-bas sont descendus. Quand il a dit, la montagne a éclaté, la montagne a éclaté. À ce moment-là, ce n'était pas encore, le monde va érupter. Tchuss. Pour l'équipe, Seifulo a complété l'histoire amère vécue en raison de l'éruption qui a duré pendant un an.
Awal meletus itu. Pertama letusan pertama itu tidak ada letusan, hanya mengeluarkan asap itu hari Senin.
Lors de la première éruption, il n'y a pas d'éruption, seulement fumée lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi soir, la grande éruption s'est produite. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, une grande éruption s'est produite. Mais lundi, mardi, mercredi et jeudi, il y a eu trop de fumée et de lave. Il n'y a pas eu d'éruption. Il n'y avait que le tonnerre et vibrer. Si nous stockions de l'eau, brrr. C'est arrivé lundi jusqu'au jeudi. Vers 18h30, après le Maghrib, il y a eu une grande éruption. C'était jeudi soir. La catastrophe de l'éruption de Mangalungung a entraîné un désavantage autour d'un milliard de rupiah et a arrêté les activités des agriculteurs.
Tapi setelah 5 tahun, tahun 87, seolah-olah Galunggung bangkit.
Mais après 5 ans, en 1987, comme si Galunggung s'éveillait, un impact positif sur l'agriculture avait également un impact positif sur l'économie de la population locale dans la région de Galunggung. On pouvait sentir ce qui était précédemment effondré. Il n'y avait pas de vie, surtout pour l'économie. Au bout de 50 ans, Les personnes vivant sur la pente du Mont Galunggung ressentent les bienfaits après l'éruption de la montagne. En 1987, les agriculteurs ont commencé à rouvrir leurs terres agricoles. Ils ont vite compris que leurs terres étaient plus fertiles après l'éruption. Atang Supriyatna l'a admis.
Kalau tanah mah dari dulu juga malah makin bagus kalau sekarang tanahnya itu.
Nos terres agricoles sont plus fertiles. Auparavant, les terres d'un hectare ne produisaient que 4 tonnes, parfois 4,5 tonnes. Aujourd'hui, c'est mieux. Ici, la terre calcule par parcelle. Ainsi, 100 parcelles de rizière peuvent produire 8 quintaux au minimum de 7 quintaux. Si les calculer, un hectare correspond à 700 parcelles. 7 fois 7, soit 49. Il y a une augmentation. Dans le passé, ce n'était que 4 tonnes. Maintenant, il est en train de devenir 49 tonnes. La structure du terrain a été bonne. Son pH augmente. Le changement de la structure du territoire est expliqué par Nang Ruspandi, chef du bureau de conseil agricole du district de Cisayong, la résidence de Tasikmalaya. Nang, qui travaille sur le terrain dans sa vie quotidienne et conseille les agriculteurs, a déclaré que la poussière de Galunggung contenait de nombreux éléments nécessités par la terre pour accroître sa productivité, que ce soit pour l'agriculture et pour les légumes.
Sampai dengan sekarang itu terjadinya fenomena alam.
Jusqu'à présent, le phénomène naturel se produit. Si nous creusons le contenu de la poussière de Galunggung, il y a une poussière de volcanologie ou des éléments de hara qui sont très nécessités, micro-éléments qui sont nécessités par la plante. L'un d'eux est le manganèse, le fer, le magnésium, le soufre qui soutiennent la croissance des plantes, car ces micro-éléments sont très nécessaires aux plantes, même s'ils sont en petite quantité. À cet égard, il y a un impact sur les plantes. Avant que le Mont Galunggung ait éclaté, j'ai interrogé les agriculteurs sur le fait qu'un hectare de terre n'en produisait que 5,9 et était passé à 6,3 en impliquant la technologie. La poussière de Galunggung augmente non seulement la quantité de produits agricoles, mais aussi la qualité du produit. Même le riz Galunggung est bien connu jusqu'à l'étranger.
Sebelum ada Galunggung, itu produksinya biasa-biasa aja. Tetapi setelah ada Galunggung,
avant que Galunggung éclate, son produit était normal. Mais après l'éruption, il a augmenté. La qualité du riz est également meilleure. Le riz Galunggung, qui est produit à partir d'eau de Galunggung, est de qualité supérieure, de sorte que le prix du riz est très satisfaisant. Si vous ne croyez pas, la marque de riz Cianjur au supermarché, la meilleure partie du produit vient d'ici, Cisayong. C'est une bonne qualité du riz. Le rendement du riz ici, d'un quintal, atteigne 50 à 60 kg. C'est rarement. Le riz de trempage peut produire beaucoup si l'engrais utilisé est approprié et équilibré. La qualité de riz de la résidence de Cisayong a reçu la certification internationale d'Institut Market Ecology Organization ou IMO. Le conseil de certification des aliments biologiques vient de Suisse et a délivré des certificats à plus de 300 groupes d'agriculteurs du monde entier produisant un certain nombre de plantes biologiques.
Nah, ada yang kami produksi khususnya dari Cisayong.
Nous produisons du riz biologique principalement de Cisayong, généralement de 31 régions. Nous avons exporté des dizaines de tonnes de riz biologique et même des centaines de tonnes. Par gapoctan sympathique et gapoctan sympathique a été exporté vers l'Allemagne, les États-Unis et la Suisse. Il y a trois types de riz qui sont exportés. Il y a du riz rouge, du riz noir, du riz blanc. Ces types de riz sont biologiques. Pourquoi le riz peut-il être exporté? Parce que le riz a été certifié par IMO. IMO est une agence de certification internationale. Ainsi, le riz peut être vendu à l'étranger. Sans étiquette de certification, le riz ne peut pas être exporté.
Alhamdulillah, dengan adanya letusan Galunggung itu fenomena.
Alhamdulillah, en raison de l'éruption du Mont Galunggung, les villageois de Cisayong bénéficient d'un impact positif. L'augmentation du produit est d'environ 5 à 7%. La bénédiction est ressentie par les agriculteurs, comme l'a dit Atang Supriyatna.
Kan dulu mah kan ada yang kelaparan kan di kita kita di sini mah nggak ada.
C'est mieux maintenant. Dans le passé, il y avait des gens qui mouraient de faim. Dans le passé, la saison de récolte n'était que deux fois par an. Ici, la récolte a lieu trois fois par an. Prenons par exemple, 100 parcelles peuvent produire une tonne. Si trois fois par an, cela signifie 3 tonnes. Dans le passé, ce n'était que 2 tonnes parce que la récolte est deux fois. Alhamdulillah, il suffisait que les habitants mangent 2 ou 3 fois. Bénédiction. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Nah itulah riwayat Galunggung, tapi alhamdulillah setelah kejadian.
C'était l'histoire de Galunggung, mais alhamdulillah après l'événement, même les gens autour de Galunggung peuvent sentir les produits agricoles à partir des ressources naturelles elles-mêmes et apporter plus d'avantages à la norme économique pour les meilleurs résidents. Ce qui a été livré par Saifullah, chef du village de Sukajadi, nous rappelle que dans la vie, les êtres humains sont souvent confrontés à divers types d'événements imprévus. Certains d'entre eux se sentent plus tristes, mais de ces événements, il y a la sagesse de Dieu Tout-Puissant qui doit être reconnaissante par les habitants du Mont Galunggung qui sont juifs maintenant. Serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Les catastrophes apportent des bénédictions ». Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir, chers amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence de développement et de renouvellement de langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Perlu bantuan. Je répète, Perlu bantuan. En français, tu as besoin d'aide. « Mettons, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Perlu bantuan » ou en français « Tu as besoin d'aide ». Les personnages sont Tony et Enda. L'emplacement est à la maison de Joko. La situation est Enda va aller à l'hôpital pour voir l'état de son père qui a eu un accident.
Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit.
Mau aku temani?
Tidak usah, terima kasih.
Baiklah, tapi beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu ya.
Oke, makasih.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Perlu, perlu, en français, avoir besoin. Butuh, butuh, en français, avoir besoin. Tidak usah, en français, pas besoin. Maaf. Aku harus pergi ke rumah sakit. Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit. En français, désolé, je dois aller à l'hôpital. Mau aku temani? Mau aku temani? En français, veux-tu que je t'accompagne? Perlu bantuan? Perlu bantuan? En français, tu as besoin d'aide? Boleh bantu saya? Boleh bantu saya? En français, peux-tu m'aider? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? En français, y a-t-il quelque chose que je peux aider? Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. En français, si tu as besoin d'aide, contacte-nous. Beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. Beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. En français, faites-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Dans le dialogue, Tony a dit que mau aku temani. Je répète, mau aku temani. Il a également dit que beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. Je répète, beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. La phrase que Tony a dit était une expression en offrant de l'aide. Voici des exemples d'expressions utilisées pour offrir de l'aide. Perlu bantuan. Perlu bantuan. En français, besoin d'aide. Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? En français, puis-je t'aider? Apakah Anda perlu bantuan? Apakah Anda perlu bantuan? En français, tu as besoin d'aide? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? En français, y a-t-il quelque chose que je peux aider? Les autres exemples. Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. En français, si vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Beritahu saya kalau kamu perlu bantuan. Beritahu saya kalau kamu perlu bantuan. En français, faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Dans le dialogue, vous écoutez le mot memberitahu. Vient du préfixe me et du mot de bas beritahu. En indonésien, de nombreux affixes peuvent former des mots et de modifier ou bien ajouter à la signification des mots de base. Des exemples d'affixes sont ber, me, pi et an. Chaque affixe a des règles. Si vous voulez augmenter votre niveau de langue de l'indonésien, vous devez apprendre et utiliser correctement Différent Affix. Chers amis, avant de terminer le programme de l'apprendre l'indonésien, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois.
Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit.
Mau aku temani?
Tidak usah, terima kasih.
Baiklah, tapi beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu ya.
Oke, makasih.
Chers amis, l'exercice aujourd'hui est décrivez le lieu touristique de votre ville et votre sentiment lorsque vous y êtes. Comme par exemple, di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain air, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Je répète, voi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un heureux gagnant. Le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Chers amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique musicale. Et cette fois, nous allons vous présenter des chansons de Aimé Saras. La femme de son vrai nom est Diah Rahmi Saraswati, est une chanteuse de jazz, animatrice de radio, l'actrice de théâtre et de film. Des dizaines d'années habite à New York, les États-Unis. Elle est revenue à Jakarta en 2010. En 2014, elle a sorti son premier album après avoir sorti 3 singles. Bon, chers amis, écoutons maintenant la première chanson intitulée Téléphone. Bonne écoute.
Kira siapa gerangan
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous êtes en train d'écouter des chansons pop de l'Indonésie chantées par Aimé Saras. Et vous avez écouté tout à l'heure la première chanson intitulée Téléphone. Et maintenant, nous allons vous présenter d'autres chansons intitulées Nuit Noire, chantées par Aimé Saras. Bonne écoute.
Kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin lupakan khianat yang lalu. Di kekelaman hati ini kan ku tagi sumpah mati yang kau bisikkan ke rambutku melambat tanpa arti. Ku ingin bersama berbaring di dadamu lupakan khianat yang
vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta dans la rubrique musicale. Et c'était une chanson intitulée Nuit Noire, chantée par Aimé Saras. Et chers amis, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter d'autres chansons intitulées Lenggang Temaram. Merci à tous et au revoir.
Oh. atas segala derita.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.